Bonjour.
Bonjour.
Content d'être ici. On est toujours content de venir. Le matin était. Faisait pas l'école du dimanche. Fait qu'on est là tout ensemble. Mais avant de parler d'un Pierre, j'aimerais dire quelques mots de publication chrétienne. Mario, supposé d'afficher des photos. Peut-être tu fasses ta job, Mario, là. Écoutez, à Publication Chrétienne, on est des éditeurs. Hein? On est un éditeur de livres, ça veut dire qu'on traduit des livres et on les publie. Donc, ça a toujours été depuis 1958, c'est ce qu'on fait. Et là, on est en train de développer un côté missionnaire qui, je pense, va éventuellement surpasser ou dépasser notre œuvre d'éditeur. Ça fait des années qu'on a à cœur l'Afrique et qu'on prie pour l'Afrique, qu'on fait des choses, mais on s'est dit il faut faire plus pour l'Afrique. Et où on est allé au Togo, je vais revenir là-dessus, mais ils sont extrêmement exposés à l'évangile de la prospérité, de la fausse doctrine. Et ces gens-là n'ont pas le luxe ou le privilège ou le choix d'acheter des bons ouvrages. Parce que même si on leur envoyait 100 000 $ il n'y en a pas de disponible. Il n'y a pas de librairie. Ils ne peuvent pas en acheter. Il n'y a pas de place. C'est comme si on disait ici, on va acheter un chameau, mais il n'y a pas de chameau, on ne peut pas en acheter, ça n'existe pas. Mais là-bas, c'est pareil, il n'y en a pas. Donc, on a dit, il faut débarquer là-bas avec nos livres. Il faut trouver une façon d'aider l'Église locale, d'aider les responsables d'Église. Et on a mis sur pied un projet où on a expédié, vous voyez les boîtes qui sont là dans le camion, 1 000 boîtes comme ça, 37 000 livres. Qu'on a préparé ici au Québec, qu'on a rempli un container au complet, un conteneur maritime, qu'on a envoyé au Togo, à Lomé. Et tu peux peut-être changer les. Et on a distribué ces boîtes-là. En fait, ça s'est fait un peu d'avance. Ça, c'est lors de la conférence. On a eu une conférence au mois d'octobre. On était quatre de Publication Chrétienne avec Daniel Anderson, qui est le directeur stratégique, avec David Cadotte, qui est l'éditeur, Guy Foumboué, qui est notre président, et moi. On est allé au Togo et on a distribué les boîtes. Et les boîtes, on nous a fortement déconseillé de plusieurs personnes de les donner, mais de les vendre à un prix réduit. Écoutez, on vendait 10% du prix. De ce que ça vaut. On ne va pas en Afrique pour faire de l'argent. Vous savez, ça ne me tente pas d'arriver devant le Seigneur quand on va paraître devant lui et qu'il me dise tu as fait de l'argent sur le dos de tes frères en Afrique. Ça ne me tente pas pantoute, là. Mais on réalise que l'Église en Afrique a autant de valeur que l'Église ici à Sainte-Marie ou à Saint-Jean ou à Sainte-Foy. Ce sont les enfants de Jésus-Christ, les enfants de Dieu comme nous. Mais ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. Donc, on a fait ce projet-là, on est allé là-bas et on a fait une conférence. Les gens ont payé, comme je vous dis, 10 % et pour certains, 10 % ça, il y en a qui m'ont dit que ça équivaut de 6 à 8 semaines de salaire plein. Ça veut dire ton chèque de paye, là, pendant 8 semaines, tu le mets là-dedans pour avoir 37 livres. Dont les commentaires de M. MacArthur, la théologie systématique, différents livres, une bibliothèque qu'on a fait pour équiper les responsables d'église, les pasteurs. Et ça, c'est le monsieur qui est responsable de la librairie. Et en voyant ça là-bas, ça, c'est Guy Foumboué à droite. Vous connaissez Guy Foumboué? Guy vient à notre église, c'est un des anciens de notre église. Il est président de Publication Chrétienne, vous devriez l'inviter. Guy, lui, n'a pas eu besoin de s'acheter de linge pour avoir l'air d'un Africain. C'est un Camerounais. Et à gauche, c'est le président du séminaire où on était. Et on a fait une espèce de conférence où les gens venaient chercher leur boîte. Et ça, c'est là-bas où c'était entreposé. Les gens venaient chercher leur boîte et tu peux continuer. Bon, voilà, nous, on s'est acheté des chemises pour ressembler, mais il y avait un petit quelque chose qui nous manquait encore. Là. Les gens faisaient la file d'une façon extrêmement, comment on dit, là, disciplinée. Voilà, c'est un mot que j'ai de la misère avec. Extrêmement disciplinée. Cette personne se poussait, les gens attendaient pour avoir leur boîte. Tu peux continuer. Ça, c'est un frère qui venait d'une ville au nord de Lomé, 400 kilomètres. Il est venu en autobus avec 10-12 frères, peut-être, pour venir assister à la conférence et chercher sa boîte de livres. Ça, c'est une camionnette dans laquelle... Et nous, là, moi, je me suis assuré que les boîtes, qu'avant que ça parte, c'est 20 palettes que ça faisait. 20 palettes, que c'était tout beau, bien... bien faites les palettes, que ça n'écrase pas. Mais là-bas, eux autres, là, c'était quelque chose d'autre. Eux, ce monsieur-là, il est venu à 200 km en motocyclette comme ça, et ça ne ressemble pas à l'autoroute 20. Là. C'est un peu différent, les routes. Là, c'est carotteux. Ça, c'est une classe d'école du dimanche. Le dimanche, on était quatre, on s'est divisé, on est allé dans quatre églises différentes. Et écoutez, ça, c'est l'église où je suis allé. En fait, c'est une petite bâtisse à part l'école du dimanche. Il y avait 30, je ne me rappelle plus exactement, là, mais une trentaine d'enfants qui étaient extrêmement disciplinés, eux aussi. Il écoutait le moniteur qui chantait des chants que je connaissais, avec des mots que je ne connaissais pas, par exemple. Mais c'est ça. C'était très édifiant de voir ça. Et ça, c'est l'église où j'ai prêché. En fait, c'est un toit avec une base de ciment. Il n'y a pas de mur. Et ils sont très... très reconnaissant. On a été très édifiés de faire ça. Et on veut être connu et reconnu comme un ministère missionnaire parce que c'est vraiment... on veut se diriger vers là. En 2022, on est allé au Togo. En 2023, on va au Madagascar. Quand on dit on va, je ne sais pas où je vais y aller, mais... le processus est enclenché. On va donner la commande d'impression cette semaine ou la semaine prochaine pour encore une trentaine de mille livres pour envoyer au Madagascar. Et au Madagascar, tu sais, je vous ai dit tantôt, pour les gens du Togo, pour certains, c'est 6 à 8 semaines de travail. Pas tout le monde, mais pour plusieurs, c'est ça. Et au Madagascar, la capacité économique d'un malgache est de 50 % par rapport au Togo. Fait que on va réduire, on va vendre 5 % parce que, tu sais, on veut pas. L'objectif, c'est pas, comme je vous ai dit, là, c'est la publication chrétienne, c'est pas de faire de l'argent avec nos frères en Afrique, c'est de distribuer nos livres, d'être capable de leur donner, d'équiper les frères et les sœurs pour qu'ensuite l'Église soit enseignée et que les croyants glorifient Dieu. C'est ça notre objectif. Et on fait ça avec des partenaires des ministères aux États-Unis, aussi des levées de fonds ici au Québec et en Europe, où on pense que les frères, les croyants vont nous donner la main d'association pour être partenaires d'un projet comme celui-là. Et on a réalisé... Et là, il faut que j'arrête d'en parler. Mon épouse me dit, tu parles longtemps d'habitude quand t'en parles, mais ça, écoutez, ça, j'en parlerai pendant tout l'après-midi. On a réalisé 37 livres, c'est bien. C'est beau, 37 livres, d'avoir une boîte comme ça, mais c'est quand même pas beaucoup, 37 livres pour quelqu'un qui veut étudier la parole de Dieu. Et on a visité les bibliothèques. On a visité deux séminaires. Un qui n'avait pas de bibliothèque, zéro, pas de livres, Et un autre qui avait une belle bibliothèque, le monsieur qu'on a vu tout seul, était extrêmement fier de sa bibliothèque, c'est le bibliothécaire. Il nous a dit qu'il y avait un budget d'environ, en canadien, environ 100 $ par année pour acheter des livres. Et les livres qu'il y avait dans sa bibliothèque étaient des livres quand même, pas, on va dire, pas tout à fait à date. Des vieux livres. Et on a eu à cœur de lever un projet en fin d'année pour être en mesure d'envoyer à ces deux séminaires-là, un qui n'a pas du tout de livres et l'autre qui a des livres un peu désuets, de chacun de nos titres. On a 600-700 titres au séminaire. C'est un projet de 25 000 $. On a ramassé ça. Et cette semaine, on commence à faire les palettes pour peut-être une ou deux palettes, je ne sais pas, pour équiper ces séminaires-là là-bas. Donc, on veut servir l'Église. Et c'est ça notre mission, la publication chrétienne, de servir, c'est pas de vendre des livres, c'est de servir l'Église. On fait des livres. Écoutez, il y a des gens, d'autres maisons d'édition chrétiennes, un directeur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui m'a dit, on aimerait ça faire 15 titres par année, mais des best-sellers. Ah, j'ai dit, on aimerait ça en faire plus, puis c'est pas tellement important s'ils se vendent beaucoup. L'important, je ne suis pas un vrai fou, là, tu sais, faut quand même payer nos frais, là, on a des façons de faire ça. Mais l'objectif, par exemple, les livres de M. Strzok sur les anciens, on n'en vendra pas 100 000, là, tu sais, on le sait que c'est une niche réservée, mais on pense que c'est utile pour l'Église locale, c'est utile pour les responsables, on va le faire, même si ça va être à perte. On va trouver une façon de se rentabiliser. Donc, c'est ça, notre objectif, ce n'est pas de vendre des livres, c'est de servir l'Église locale. Et l'Église locale, elle n'est pas seulement au Québec et en Europe, elle est aussi en Afrique et en Haïti. Haïti, c'est autre chose, c'est plus difficile, on ne peut pas vraiment actuellement aller en Haïti, c'est trop dangereux. Les Haïtiens ont réalisé que avec les missionnaires qui vont là, en arrière de ça, il y a un œuvre missionnaire qui a de l'argent. Donc, ils enlèvent les missionnaires contre des rançons. Ce n'est pas parce que c'est chrétien, là, c'est simplement parce que c'est payant. Donc, ce n'est pas une bonne idée actuellement d'aller en Haïti. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des églises là, il y a des frères, des sœurs, et il faut trouver une façon de les atteindre. Et même si on n'y va pas physiquement, on veut trouver une façon d'envoyer nos livres pour édifier l'Église. Donc, voilà pour publication chrétienne. On a encore des projets. Mais c'est des projets. Vous savez, on réalise qu'on est des instruments, tout simplement, dans la main du Seigneur. On est comme des... on va dire des passeurs, mais ça, c'est pas c'est la connotation négative, hein? Les passeurs, ceux qui font passer des gens. Mais nous, on est comme ça. Il y a des gens, des frères, des sœurs, des ministères qui nous aident à pouvoir envoyer des livres à l'Église. Donc, on est simplement des gens, des intermédiaires dans les mains du Seigneur. J'ai dit là-bas, on a l'air généreux, mais on n'est pas généreux parce que c'est Dieu qui est généreux à travers publication chrétienne. C'est ses enfants. Dieu a suscité la générosité pour des œuvres comme ça. Donc, on est très reconnaissants. On a des projets plein la tête, mais il faut être capable de les réaliser. Et on aimerait ça éventuellement d'en faire deux par année. Oui, Gilles? Oui. Ah, le bâtiment. Ça, c'est notre affaire. Le bâtiment, tu sais, il y a eu 3 offres d'achat sur le bâtiment et les 3... Quand les acheteurs ont été au financement, 3 fois ça a été refusé. C'est de l'aveu de l'agent d'immeuble, c'est extrêmement rare 2 fois. Là, c'est arrivé 3 fois. J'étais complètement découragé. Je me disais, Seigneur, je suis éprouvé, c'est correct. J'ai compris, là, on peut. Et finalement, le troisième n'a pas passé à Caisse Populaire. C'est la Caisse Populaire. C'est un regroupement, là, un holding, qu'on appelle ça, de d'hommes d'affaires de Montréal. Et ils ont trouvé d'autres gens qui ont financé, des particuliers. Donc, le bâtiment s'est vendu. Et pour nous, ce que ça fait comme différence, c'est que, écoutez, les aménagements du bâtiment ont coûté environ 250 000 $. Donc, on a pu payer le contracteur et on n'a pas de dette. Ça veut dire que quand on pense à faire des projets comme ceux d'Afrique, ben on n'a pas à supporter de dette qui viendrait ralentir nos projets. Mais le Seigneur sait, hein, dans Jean 6, c'est marqué, lui savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour les éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Donc, il nous a éprouvés, en tout cas, moi, il m'a éprouvé. Christine, il y a des, je ne sais pas combien de nuits j'ai passé à ne pas dormir parce que je m'en faisais avec ça. Et ça s'est réglé. Il reste encore la difficulté légale pour le footing, comment on dit? Aidez-moi. Solage, comment? Fondation, c'est ça. T'sais, il y a tout un mur qui n'avait pas de fondation, je vous ai parlé de ça. Bon, ça, c'est encore dans les mains des avocats. On va passer en cours en 2023, je ne sais pas trop quand. Là. Et ça reste pendant. Mais pour le. Disons que c'est presque un détail, ça, là, parce qu'on l'a quand même bien réparé. Et on n'a pas l'intention de retoucher à ça, mais en quelque part, notre bâtiment a perdu de la valeur, donc c'est pour ça qu'on est en cours, et le vendeur savait ça, il ne l'a pas dit. Dieu sait comment ça va se terminer. Mais ça va quand même bien, même si on continue d'être éprouvé de différentes façons. Mais c'est de ça qu'on va parler dans 1 Pierre, parce que c'est pour ça que je suis venu, hein, je suis venu parler d'un Pierre. 1 Pierre 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, voilà les versets qu'on va tenter de couvrir ce matin. Une espérance vivante. Martin est venu faire l'introduction, je pense, des 2 premiers versets au mois de décembre. Et je ne sais pas s'il a dit ça ici, mais chez nous, il avait dit que c'était des lettres encourageantes, les lettres de Pierre. Et je me demande si vous réalisez qu'on est impliqué dans un ministère d'encouragement auprès des autres chrétiens. Pierre nous encourage, mais nous-mêmes, en tant que croyants, on peut être impliqués, on peut encourager les frères et les sœurs. Romains 1, verset 11, Paul dira, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que vous soyez encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. » Donc, on a des lettres qui nous encouragent, on a des paroles qui nous encouragent, mais en retour, on a aussi, vous savez, à un moment donné, on fait le plein et on a la responsabilité d'encourager les frères et les sœurs à l'Église. Et les encourager, ça peut simplement dire de leur témoigner notre appréciation aux sœurs qui prient, aux frères qui sont impliqués dans des ministères, aux gens dans l'Église, à ceux qui ont dit une parole d'édification, à ceux qui font du bien à l'Église, de le dire, d'encourager. C'est notre ministère, comme c'était le ministère de Pierre. Et vous savez, si on pouvait inviter, je parlais avec mon frère tantôt, puis on parlait justement de l'histoire que Nelson nous a lue dans la Transfiguration, que les disciples ont vu Moïse et Élie, puis je comprends très bien qu'ils étaient perturbés. Si par une façon quelconque, ils seraient rentrés ce matin, Pierre, Jean et Jacques et Paul, et ils s'étaient assis ici, ça se peut qu'on aurait été un peu perturbés, tu sais, qu'on aurait dit « Waouh, comment ils écoutent eux autres? Comment ils chantent? Chantent-ils plus fort? » Ou comment ils sont à l'aise avec leur Bible? Probablement pas tant que ça, parce qu'ils n'avaient pas, à l'époque, hein, il n'y avait pas de Nouveau Testament, mais on aurait été dérangés. S'il y avait quelqu'un, moi, que j'aimerais invité dans une conférence, peut-être que ce serait l'apôtre Pierre, justement, parce que je me reconnais un peu dans lui, pas parce que c'est une colonne, comme le dit l'Épître aux Galates, mais parce que c'est un frère qui a flanché. C'est un frère qui a flanché devant une servante hein, dans la nuit où le Seigneur a été livré. C'est un frère que peut-être que je me reconnais un peu dans ce frère-là. Mais Pierre écrit pour encourager. Pierre n'est pas demeuré, vous savez, il était prêt à retourner pêcher hein, après la résurrection, pas après, avant, quand le Seigneur est décédé. Lui, il était prêt à retourner à ses anciennes occupations. Mais finalement, le Seigneur, non, attends, j'ai quelque chose pour toi, mon homme. Tu vas voir, tu vas t'occuper. Et Pierre est devenu une colonne dans l'Église primitive. Et j'aime ce revirement-là, cet engagement-là, et de réaliser aussi que ce n'est pas simplement par sa propre force ou sa propre volonté. C'est sûr qu'il y avait une volonté, tu sais, ça ne s'est pas fait. Pierre, tu n'as pas un robot, là. Tu n'as pas une marionnette non plus dans laquelle Dieu a mis la main et il faisait faire des choses. Pierre avait une participation, mais c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de Pierre. Pierre s'est laissé diriger pour devenir ce qu'il a été, une colonne dans l'Église, un frère qui a encouragé. Et on va commencer au verset 3. Moi, je pense que j'ai jusqu'à une demi. C'est-tu ça ou c'est pas ça? Mais c'est quoi d'habitude? OK. Bon, je vais essayer de ne pas aller trop haut. Le passage débute hein, par une doxologie. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre débute avec une doxologie. Ça veut dire de dire doxa, c'est gloire. Logos, c'est parole, une parole de gloire. Pierre commence par louer Dieu pour sa gloire. Et ce n'est pas nouveau dans la Bible, des doxologies, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament. Il y en avait dans l'Ancien Testament. Genèse 14, verset 20, je vous les cite, on n'ira pas voir. Ruth 4, 14. Mais ici, Pierre, comme Paul, ajoute quelque chose de nouveau à ce que l'Ancien Testament a jamais révélé, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais dans l'Ancien Testament, on va voir le Seigneur Jésus-Christ annexé à une doxologie. Il n'est pas question En fait, il y en est question abondamment dans l'Ancien Testament, mais jamais on l'appelle par son nom. Mais ici, la doxologie ne s'arrête pas au Père, mais inclut le Fils. Ça veut dire du bien de quelqu'un. C'est ça que ça veut dire une doxologie. Dire du bien de quelqu'un, dire du bien de Dieu. Et là, ce qui est intéressant, vous savez, quand on est assis, je sais tantôt qu'on va aller manger ensemble, on est assis, il fait chaud. Quand je dis il fait chaud, je veux dire on est à la chaleur, il y a un bon repas devant nous. Merci Seigneur. Pas dur, ça. T'sais, on a ce qu'il faut. Pierre est dans l'épreuve. Pierre n'est pas assis au restaurant en train de se faire servir, à dire « Merci Seigneur ». Non, non. Il est dans l'épreuve. Et l'épreuve, c'est quelque chose qu'on va vivre en tant que croyant. Et qu'est-ce qu'on fait au milieu des épreuves? Comme Paul dans la prison à Philippe, qui chantait et louait Dieu, on loue Dieu. C'est ce que Pierre est en train de nous montrer. C'est ce que Paul a fait. Même dans l'épreuve, on loue Dieu. C'est-à-dire que nous évaluons Dieu comme ayant plus de valeur ou d'importance que l'épreuve qu'on est en train de vivre. Et indépendamment de l'épreuve, on ne peut pas dire à un moment donné, « Ah, mais là, cette épreuve-là, par exemple, c'est correct, louer Dieu, là, mais là, l'épreuve, ça dépasse, ça n'arrivera pas. » Il n'y a pas une épreuve que Dieu va permettre dans nos vies qui va venir assombrir la gloire et la personne de Dieu, l'activité dans nos vies, l'activité de Dieu dans nos vies. Il n'y a rien. Bénissez Dieu dans vos vies, dans vos épreuves. Reconnaissez-le comme ayant plus de valeur que l'épreuve elle-même. Et glorifiez Dieu. Et je me suis posé la question, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, c'est où exactement, là, est-ce que je peux mettre le doigt une place dans les Évangiles où le Seigneur Jésus a le plus glorifié Dieu? C'est difficile parce que pas capable d'évaluer, tu sais, oh, ça, c'est, il glorifie à 40 % 65, je ne suis pas capable de faire ça. Mais est-ce que la croix, l'épreuve suprême, n'est pas l'endroit, selon moi, pour avoir une opinion différente, où le Seigneur ne va pas glorifier Dieu au maximum lors de l'épreuve suprême? Donc, moi, est-ce que je peux aussi glorifier Dieu lors des épreuves? Et une épreuve, vous savez, c'est rarement positif, hein? C'est rarement agréable. Et Pierre va développer sur l'aspect des épreuves. Et celui qui est béni, ce n'est pas simplement Dieu, mais c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se révèle clairement et distinctement comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la confession centrale de l'Église primitive qu'on voit dans Actes 2, 36, Romains 10, 9 et 10, 1 Corinthiens 16, 22. Je m'excuse, je vous bombarde de versets, mais on n'a pas le temps d'aller voir, mais c'est le cœur, c'est la confession de l'Église primitive. Le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Kurios, ça veut dire qu'il est le maître, celui à qui les choses appartiennent. C'est celui qui règne sur sa maison, sur l'Église locale. Et Kurios est toujours associé avec doulos, esclave, serviteur. Et lui, Kurios, nous, doulos, on est ses serviteurs, en fait, c'est ses esclaves. Nous lui appartenons. Seigneur Jésus, c'est son nom terrestre, et Christ, c'est le titre messianique. Il est le Seigneur, le Messie. Il est la gloire du ciel. Pierre est en train s'il ne savait pas quoi dire lors de la transfiguration, là, il sait quoi dire. Il est rempli du Saint-Esprit et il va glorifier Dieu. Et il est non seulement le Père du Seigneur Jésus, mais il est notre Père. Hein? Vous vous rappelez qu'à la fin de l'Évangile de Jean, le Seigneur va dire, après sa résurrection, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Vers mon Dieu et votre Dieu. Écoutez, on a cette pensée-là, cette assurance-là. D'ailleurs, il y a une sœur, Gilles m'a parlé pour des dates éventuelles en 2023, mais je dois te confesser quelque chose, Gilles. Je ne suis même pas sûr que je l'ai dit à mon épouse, mais la semaine passée, il y a une sœur à l'église qui m'a souhaité bonne année et elle m'a dit « Je te souhaite d'aller au ciel. » Fait que je dis ça en 2023, ça? Fait que je te reparlerai de 2023, je ne suis pas sûr. Mais on a tous cette certitude-là qu'on va se retrouver au ciel. On a, si on est croyant, si on est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Mais, et on a cette pensée-là, juste, qu'on va être délivré des épreuves, qu'on va être délivré des pleurs, qu'on va être délivré de... Mais il n'y a pas juste ça, là. Il y a bien plus que ça au ciel. Il y a Dieu lui-même. Tu sais, si on disait, ben, Dieu va habiter parmi nous à Sainte-Marie, on dirait-tu, oh, mais là, tu avais mis au ciel. Peut-être j'aurais aimé mis au ciel, là, mais le fait d'avoir Dieu lui-même, tout ce qui reste, tout ce qui entoure, tout ce qui est, c'est du plus, c'est du bonus, c'est du gravy, comme on dit. Hein? C'est, l'objectif, c'est d'avoir Dieu lui-même. On sera réunis avec Dieu. Et il continue, qui selon sa miséricorde, j'ai encore au verset 3, qui selon sa miséricorde nous a régénérés. Selon sa miséricorde. La miséricorde, là, c'est une faveur imméritée que Dieu nous donne. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Selon sa miséricorde nous a régénérés ou engendré à nouveau, selon l'original, nous a engendré à nouveau. C'est une action unilatérale du Père. Si on est sauvé, c'est pas par nos mérites, c'est pas par nos efforts, c'est pas par notre conduite à l'Église, c'est pas par notre connaissance ou notre ministère ou notre gentillesse avec les incroyants ou les croyants. C'est uniquement à cause de la miséricorde de Dieu, le Père. Et on est régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La régénération s'accompagne d'une espérance. Et l'espérance dans la Bible, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais vous savez... On venait ici, là, c'est quoi là, aujourd'hui? C'est le 8 janvier. Et quand on regarde ça, on espère qu'il va faire beau. On souhaite qu'il n'y aura pas de tempête, mais on ne contrôle pas ça, puis on ne le sait pas. Mais dans la Bible, l'espérance, ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on souhaite, qu'on espère. C'est une réalité, c'est une vérité pour une espérance vivante. Vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Elle est vivante parce qu'elle s'appuie sur une personne qui est vivante aujourd'hui. Notre espérance est aussi certaine que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, qu'il est ressuscité. Et pour un héritage, on sait ce que c'est un héritage, pour les croyants à qui Pierre s'adressait, des fois, l'héritage, ça peut être, on hérite de la maison, du terrain, de différentes affaires. Mais les Juifs étaient dispersés, c'est ce que Pierre a dit au début. Hein? Ils sont dispersés dans le pont de la Galatie un peu partout. Il n'y avait pas d'espérance de recevoir une terre en Israël. Là. Il n'était plus en Israël. Donc, c'est pas cette espérance-là, c'est pas une espérance terrestre, mais c'est une espérance qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Vous comprenez que les trois thèmes, ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, c'est des termes qui nous parlent de quelque chose qui va demeurer impeccable, qui va demeurer parfait jusqu'à la fin, qui ne va pas flétrir, qui ne va pas changer, qui ne va pas diminuer, mais ça va rester parfait. Impeccable, j'aime pas ça utiliser ce mot-là. Ça s'adresse, impeccable, petite parenthèse, ça s'adresse à une personne seulement. Un jour, dans l'imprimerie où je travaillais, on avait fait un volume, et c'est vrai qu'il était beau. Et mon patron, il me dit, il est impeccable. Non, ben, je dis, non, il n'est pas impeccable. Je dis, c'est impeccable, c'est une personne impeccable. Im, ça vient du latin. Im, c'est un négatif. Pecare, c'est péché. C'est sans péché. C'est ça que ça veut dire, impeccable. J'ai dit, ça s'adresse seulement à une personne. Et là, il m'a dit, oui, mais il est beau pareil. Je dis, oui, il est beau pareil. Donc, impeccable, j'essaye de réserver ça. Quand quelqu'un dit ça, c'est Jésus-Christ est impeccable, point à la ligne. Donc, ça nous est réservé dans les... Je ferme la parenthèse. Ça nous est réservé dans les cieux. C'est quelque chose qui est garanti, qui est certain. Ça nous est réservé. On n'a pas besoin d'arriver puis de se demander. On ne demandera pas à Dieu, avais-tu ma réservation? Ma réservation, est-ce que... Non, c'est réservé, c'est garanti, c'est certain. Et qu'est-ce qui nous est réservé? C'est quoi cet héritage-là? Sinon, peut-être Dieu lui-même. Comme Dieu avait dit à Aaron dans le livre des Nombres, quand il a fait justement la distribution de la terre, la division des terrains de Canaan, et il en a donné à chaque famille, et peut-être qu'Aaron va se dire, mais moi, c'est quoi que j'ai? Tu m'as rien donné. Là. Et Dieu lui a dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession. Wow! Il n'y a pas une terre. Il y a bien plus qu'une terre. Dieu dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession. Est-ce que notre héritage, ce n'est pas Dieu lui-même? Hein? Le salut qui est gardé, c'est un mot militaire, qui est réservé. Dieu protège cet héritage-là, cette certitude que nous avons. On n'a pas à douter. Imaginez si on est préservé, si notre héritage est préservé, gardé par Dieu lui-même. C'est pour ça que la doctrine du salut, elle est absolument... on ne peut pas perdre notre salut. La doctrine du salut, elle est garantie, elle est scellée. On est scellé du Saint-Esprit. Si quelqu'un essaie de vous croire que vous pouvez perdre votre salut parce que vous avez péché, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est comme dans l'expression, vous savez, quand quelqu'un dit « il y a des millions d'années, on sait que ce qui va suivre, c'est faux ». C'est sûr, c'est faux, parce qu'il y a des millions d'années, ça n'a pas existé. Fait que quand quelqu'un dit « on peut perdre notre salut », ce qui va suivre, c'est même ça, c'est faux. On ne peut pas perdre notre salut. Ça nous est réservé par la puissance de Dieu, que nous dit l'Épître de Pierre. La joie présente, au verset 6, c'est là ce qui fait maintenant votre joie, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Quelques mots sur l'épreuve. On ne va pas passer à côté des épreuves, mes frères, mes sœurs. Dans Ésaïe, c'est marqué, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Ça ne veut pas dire qu'on va passer dans une piscine. Ça veut dire que les eaux, ça veut dire qu'on va passer au travers d'épreuves. C'est ça, quand, c'est une promesse. Je serai avec toi, ça aussi c'est une promesse. Et Pierre dit, puisqu'il le faut, les épreuves sont nécessaires dans notre vie. Et là, ne faut pas tout mêler, hein, parce que des fois, on a des conséquences de nos péchés qui ne sont pas des épreuves, c'est des conséquences. Des épreuves, c'est quand Dieu nous éprouve. Et l'objectif d'éprouver n'est pas juste de tanner, de gosser, c'est pas ça. C'est de révéler quelque chose qui est en nous. Comme un sculpteur qui... quelqu'un a demandé à Michel-Ange un jour, il commence à sculpter quelque chose, et puis il y a une personne qui... J'ai lu ça. Il y a une personne qui demande, c'est quoi tu fais? Il dit, je veux libérer l'ange qui est dans ce bloc de pierre. Et à partir de là, il a sculpté un ange. Tu sais. Puis l'épreuve, c'est ça, ça va révéler des choses qui sont en nous, des choses que Dieu a placées en nous. Diverses épreuves. Les épreuves sont variées, mais elles sont contrôlées par Dieu pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Hein? L'épreuve, là, faut jamais, jamais se dire « Dieu n'est plus en contrôle, mon épreuve est trop grande. » Non, non. Dieu est toujours en contrôle. Même si des fois, on sent que ça chauffe, Dieu il a la main sur le thermostat, puis il sait quand est-ce que baisser la température ou la monter. Il faut faire confiance à Dieu dans tout ce qui nous arrive, que ce soit la maladie, que ce soit le travail, la famille, à l'Église aussi. On va avoir des épreuves à l'Église. Faisons confiance au Seigneur. Et je vais tout de suite au verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était révélée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. L'intention dans le passage de Pierre, c'est de célébrer la grandeur et l'ampleur du salut et de montrer aux croyants que le salut, ce n'est pas une nouvelle idée que Dieu a eue quand le Seigneur a eu 30 ans ou 30 ans. Il n'a pas dit, hey, ce serait une bonne idée, tiens, bon, je viens de penser à ça, on va faire. Depuis toujours, depuis avant la fondation du monde, l'œuvre du salut, et nous, en tant qu'élus, on est identifiés. Et le texte nous dit que les prophètes ont cherché à voir clair dans ça, mais ils ne pouvaient pas voir clair dans ça. On pense à Ésaïe. Ésaïe 53, qui parle clairement de la personne du Seigneur Jésus. D'ailleurs, les Juifs ne lisent pas Ésaïe 53, hein, tellement ça ne peut pas parler de quelqu'un d'autre que du Seigneur. Notre frère a lu le psaume 23 ce matin. On pense au psaume 22, David, qui a prophétisé. On pense à Daniel, qui a prophétisé aussi. On pense à Jérémie en ce qui concerne la Nouvelle Alliance. Est-ce que ces gens-là voyaient clairement qu'est-ce qui est en... Pas du tout. Ils ne voyaient pas clairement qu'est-ce qui est en train de prophétiser ou le point central de la personne du Seigneur Jésus. Mais il était utilisé par l'Esprit de Dieu. Il prophétisait. Et c'est nous qui sont les objets de ces prophéties. C'est nous qui sommes l'objet du salut. Même les anges. Et dans 1 Pierre, on a décidé à Saint-Jean, il y a quelques thèmes qui reviennent dans l'Épître quelquefois. Les anges en sont un. Et on va faire une petite excursion, je ne sais pas. Pas quelle date, là, mais on va faire une petite excursion sur les anges, c'est-à-dire un message spécifique sur les anges. Mais même les anges n'ont pas le privilège qu'on a d'être les objets du salut, les objets de la miséricorde de Dieu, les objets de la bonté de Dieu, l'espérance que nous avons, même les anges ne l'ont pas. On fait partie, mes frères et mes sœurs, d'un plan unique. On fait partie du plan. Dieu a un plan général, hein? Dieu a un plan pour l'univers, On le voit à plusieurs reprises dans les Écritures que selon le plan de Dieu, les choses se sont exécutées. Dieu dirige toutes choses. Mais Dieu a un plan pour nous aussi, pour chacun de nous individuellement. Et Dieu exerce son plan dans nos vies. Et nous, on a à être obéissants, reconnaissants, même dans l'épreuve. Il n'y a personne, aucun des enfants de Dieu pour qui Dieu a un plan négatif. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuve. Et l'épreuve peut aller, comme dans le cas de Jean-Baptiste, jusqu'à être décapité. Est-ce que Dieu a abandonné Jean-Baptiste? Pas du tout, c'est dit de lui que c'était le plus grand des prophètes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu nous réserve. Mais quand on sera dans l'épreuve, bénissons Dieu, malgré l'épreuve, malgré la douleur, sachant, pas juste pour passer le temps, mais sachant que Dieu a un objectif au travers de l'épreuve qu'il nous réserve. Notre Dieu et Père, on veut vous prier, on veut vous rendre grâce pour votre parole que nous avons en plusieurs versions et pour l'encouragement que nous avons au travers de ces paroles. Nous savons que nous serons éprouvés, nous savons que la vie croyante ne sera pas toujours facile, mais au travers de ces pages, au travers de ces lectures, nous pouvons être édifiés, encouragés, et on veut vous remercier. Merci pour la personne du Seigneur Jésus qui rend toute cette vie ecclésiastique possible. Sans lui, on ne serait pas ici, on serait ailleurs, on parlerait d'autres choses, mais non, on est réunis en son nom pour vous adorer. C'est dans le nom précieux de votre Fils bien-aimé qu'on veut prier. Amen. Amen.